Bonjour Irina Bokova.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, depuis 2009. Vous êtes d'ailleurs la première femme à avoir été élue à ce poste et vous êtes la candidate de la Bulgarie pour succéder à Ban Ki-moon au poste de secrétaire générale des Nations Unies en janvier prochain. Pourquoi visez-vous cette fonction ?
Je crois que c'est pas un secret, je cache pas que mon expérience en tête de l'UNESCO m'a beaucoup encouragée, m'a beaucoup donné. C'est l'Organisation des Nations Unies, l'Agence pour l'éducation, la culture, la science, la communication, qui représente, comme nous disons, l'outil de développement de la paix, faite par les moyens de inclusion sociale, de la dignité humaine, de droits humains. Et je crois fermement dans les valeurs de l'UNESCO. Je crois fermement dans les valeurs des Nations Unies, le multilatéralisme. Et cette expérience que j'ai déjà acquise en tête de l'UNESCO et bien évidemment avant mon expérience dans la vie politique de mon pays, la transition de la Bulgarie vers la démocratie, vers l'ouverture du pays, m'a beaucoup donné et m'a beaucoup encouragé aussi.
Alors depuis 1946, 8 hommes se sont succédés au poste de secrétaire général des Nations Unies. Cette année, il y a 11 candidats et vous êtes 5 femmes. Hélène Clark, la néo-zélandaise, Christiana Figueres du Costa Rica, Natalia German de la Moldavie, Susana Malcora de l'Argentine et vous-même. Alors au-delà de votre candidature personnelle, est-ce que vous pensez qu'il est temps qu'une femme accède à ses responsabilités à l'ONU ?
Tout d'abord, je crois que c'est normal qu'il y ait plus de femmes candidates cette fois-ci, parce qu'il y a toute une ambition plus large de la part de la société civile, mais pas seulement parmi les organisations féminines. Je dirais que beaucoup des hommes aussi considèrent que c'est le temps des femmes. Mais en même temps, je crois que il y a aussi la question des compétences. Il y a beaucoup de femmes compétentes et on ne parle pas seulement des femmes, mais on parle aussi des mérites des candidats. Et je crois que beaucoup de ces femmes, ils font cette combinaison entre les compétences, les mérites et aussi leur attention, focus sur les questions féminines.
Il existe une diplomatie féminine, une manière féminine de faire de la diplomatie ?
C'est une question intéressante. Vous savez qu'en Suède, par exemple, dont j'ai été il y a un mois, leur politique étrangère s'appelle la politique étrangère féminine, dirigée par Malmström, la ministre. Je ne dirais pas qu'il y a une manière de faire la politique particulièrement différente. Mais c'est vrai que nous, les femmes, quand on est en poste, et c'est mon expérience personnelle en tête de l'UNESCO, j'ai concentré l'organisation sur la priorité égalité des genres, qui d'ailleurs a été adoptée par la conférence générale, mais dans tous ces programmes, dans toutes nos actions, j'ai mis l'accent aussi sur les femmes, éducation des filles, alphabétisation des femmes, femmes et sciences, le rôle des femmes dans les médias, violence contre les femmes. Alors c'est toute cette expérience qui m'encourage aussi de dire que oui, il faut faire l'égalité des genres et les femmes comme l'ambition du 21e siècle.
Alors beaucoup d'attentes, mais en même temps beaucoup de freins. C'est ce que disait l'une de vos rivales pour le poste de secrétaire générale des Nations Unies, Susana Malcora, qui a récemment déclaré qu'il y a toujours un petit handicap pour les femmes. Il y a encore un vote biaisé à leur encontre. Vous êtes d'accord avec cette déclaration ?
Franchement, dire pas beaucoup. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je crois que aujourd'hui c'est une compétition ouverte. C'est une compétition, je dirais pas rivalité, pas du tout. C'est une compétition. Je connais tous les candidats, sont des amis, certaines collègues du système des Nations Unies. Je crois que c'est une compétition des idées, c'est une compétition d'expérience, c'est une compétence aussi de manière de gérer certaines situations. Moi, je crois que mon avantage est que je sorte aussi d'une situation de crise financière au sein de l'UNESCO. J'ai fait beaucoup de réformes. C'était très compliqué, très complexe, d'un côté de gérer la situation politique et de l'autre côté aussi de gérer la crise financière. Et je crois que j'ai beaucoup fait pour les droits humains, pour que l'organisation soit pertinente à tout ce qu'ils attendent de nous, nos pays membres. Et j'ai été très honorée que récemment, le chapitre, l'organisation Amnesty International néerlandaise m'a mis avec l'autre candidat, Lukšić de Monténégro, parmi les deux candidats qui ont fait plus pour les droits humains et qui ont une vision pour les droits humains le plus pertinente. Et lorsque les Nations Unies se reposent sur trois piliers, c'est la paix, le développement, paix et sécurité, développement et droits humains, je trouve ça extrêmement importante.
Mais alors quand on voit tous les conflits qui émergent ou qui sont déjà en cours dans le monde, à quoi servent aujourd'hui les Nations Unies ? On voit que la situation est complètement bloquée depuis 5 ans en Syrie. Au Yémen, on n'arrive pas à conclure de cesser le feu. Il y a des situations, une crise des migrants sans précédent. À quoi sert l'ONU aujourd'hui ? L'ONU, on a l'impression qu'il est un peu en retrait sur ces questions.
Vous avez raison que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un spectre de crises, la crise des réfugiés, les migrants, le changement climatique, migrants aussi à cause du changement climatique, l'intolérance, l'extrémisme, le terrorisme partout. Et c'est pourquoi je considère toujours que parce qu'il y a de ces conflits, on ne peut pas dire que Nations Unies ne sont pas pertinents. C'est davantage, il nous faut plus de Nations Unies, il nous faut plus de négociations, il nous faut plus de diplomatie aujourd'hui pour gérer une telle situation.
Mais ça passe par quoi ? Par plus de représentativité
Je crois que ça se passe beaucoup plus par des mesures préventives. Il faut anticiper. Il faut mettre en œuvre beaucoup plus d'efforts sur les questions préventives, les missions politiques, les négociations. Les conflits ont changé leur nature. Les conflits ne sont pas entre les États, sont à l'intérieur des États. Il y a beaucoup de fragmentation des différentes sociétés. On a vu tout ce qui se passe avec les rivalités ethniques, avec des conflits, les persécutions sur la base d'appartenances religieuses, ethniques, le reste. Alors, il nous faut tout d'abord comprendre quelle est la nature des conflits aujourd'hui, d'anticiper, de faire aussi de créer des sociétés résilientes à ces conflits. Il me paraît ça le plus important, et c'est pourquoi les Nations Unies doivent beaucoup plus être impliquées dans la culture de la paix, dans l'éducation, les jeunes, la formation, de voir le développement, la pauvreté, l'éradication de la pauvreté, pour avoir cette atmosphère de tolérance et de la compréhension mutuelle.
Alors, une question qui s'adresse à présent à la directrice de l'UNESCO. Lundi doit s'ouvrir devant la Cour pénale internationale le procès de Ahmad Al-Mahdi, un Malien accusé d'avoir ordonné la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, mausolée qui était classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour la première fois, un acte de cette sorte est qualifié d'acte de guerre. Alors rapidement, quel est votre sentiment sur ce procès ?
Mais vous savez, c'était mon initiative de parler tout d'abord avec la procureure de la Cour internationale pénale, Mme Bensouda. Nous avons travaillé nos deux équipes. Et finalement, on a mis devant la Cour, nous allons témoigner, nos experts vont témoigner. Je crois que c'est un processus historique parce que s'il y a un crime de guerre, il faut que l'impunité ne règne pas.